peur au bout du micro.
La peur au bout du micro.
La peur au bout du micro.
La peur au bout du micro.
Vous êtes sur Radio Campus pour l'émission La peur au bout du micro. Cette émission est animée par tous les participants du projet Partir en livre. Notre invité pour cette heure que nous allons partager est Taous Merakchi.
Bonjour.
Journaliste, podcasteuse et autrice. Nous l'avons découverte à travers nos lectures et nos moments partagés. Nous sommes heureux de l'accueillir. Bonjour Taous.
Ah bah d'accord, j'étais en avance. Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et coopération avec Anis.
Bonjour.
Nous accueillons aussi Célia et Lina.
Bonjour.
Bonjour.
Qui vont réaliser l'interview de Taous. Mais avant cela, nous allons écouter un micro-trottoir qui va nous plonger dans l'univers de Taous.
Est-ce que vous avez 2-3 minutes à nous accorder pour répondre à quelques questions?
Bien sûr, pas de souci.
Sur les films d'horreur. Oula, là, moi je regarde jamais.
Quel est le souvenir le plus marquant de film d'horreur que vous avez vu dans votre vie?
Alors, j'en ai pas vraiment parce que je regarde pas les films d'horreur.
Moi je dirais que c'est le film Ça de Stephen King avec le clown qui arrache un enfant dans la bouche d'égout.
Du coup, les Dents de la Mer, hein, c'est le seul que j'ai vu, je les évite absolument.
C'était au collège et c'était un film qui se passait dans la forêt, j'ai plus le titre. Mais voilà, c'était très...
Il y a
très...
une scène en particulier qui vous a marqué?
Oui, une scène dans la forêt. Enfin, ça m'a... J'ai fait des cauchemars pendant des mois.
Mais du coup, vous n'avez pas...
C'était le projet Blair Witch.
C'est Obsession, le film qu'on a été voir il y a 2-3 semaines, on va dire. Non, bah, la particularité, c'est qu'on peut avoir peur à tout moment, en fait. Alors que d'habitude, dans un film d'horreur, on sait plus ou moins les moments... où on va avoir peur, voilà, la musique s'arrête et tout. Mais là, Obsession, c'est vrai que tout le film, on était assez gêné et un peu angoissé.
Ouais, c'était malaisant, le film. Il était bien malaisant, je suis d'accord.
Est-ce que vous avez aimé cette expérience?
Ouais, j'ai bien aimé.
Moi, ça m'a traumatisé. Je te le dis, ça m'a traumatisé.
Et est-ce que vous avez aimé avoir peur dans les films?
Oui, je dirais que c'est un peu le but. Sinon, on va pas avoir un film d'horreur. C'est un peu dommage.
Bah, alors moi, j'aimais pas trop. Mais depuis quelques années, j'ai commencé à bien aimer. Donc j'ai regardé pas mal de films d'horreur. Mais et toi, est-ce que t'es...
Bah, en vrai, les films d'horreur en eux-mêmes, je sais pas vraiment, mais j'aime bien la tension qu'il y a dans les films d'action en général. Vu que, je sais pas si on peut faire le parallèle avec ceux des films d'horreur, mais la tension, c'est quand même un truc cool dans les films.
Et d'après vous, à quoi ça sert les films d'horreur en général?
À quoi ça sert? Procurer des émotions fortes.
En plus d'avoir peur, bah, c'est dépasser ses limites, voir si on arrive à aller au-delà de sa peur. Puis aussi, ça peut permettre de passer du temps souvent avec ses copains. Voilà, un moment social.
Alors, on m'en a parlé, ceux qui regardent disent que voilà, ça permet d'avoir des sensations, des émotions fortes et que c'est bien pour ça.
Peut-être se faire peur, avoir de l'adrénaline.
Bah, ça reste avant tout, on va dire, une expérience artistique, quoi, de ressentir la peur, etc. Après, par exemple, si on prend le film Obsession, il y a quand même toujours une morale derrière. Ouais. Donc, c'est un peu finalement comme tous les autres films de cinéma, hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même toujours des messages.
Après ce premier avant-goût, on va passer cette interview à Taous.
Bonjour Taous.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très très bien, et vous?
Ça va très bien. Si tu devais nous donner 3 mots pour nous parler de toi.
Waouh, pas de pression. Passionnée, flemmarde et résiliente.
Pourquoi?
Parce que malgré tout ce qu'on a mis en travers de ma route, j'ai quand même toujours réussi à me relever avec le sourire, à toujours trouver quelque chose de positif, même dans les pires expériences que j'ai vécues. Mais à côté de ça, si on me donne le choix entre grimper une montagne ou rester dans mon canapé, je reste dans mon canapé.
C'est beau. C'est beau et c'est drôle. Alors aujourd'hui, on est là parce que tu as sorti un essai qui s'appelle Monstrueuse et qui parle de ta passion des films d'horreur. Est-ce qu'il y aurait un film d'horreur que tu aurais envie de conseiller aux personnes qui nous écoutent ?
Alors, le film que je conseille à tout le monde, et un des films qui est représenté sur la couverture, c'est Jennifer's Body, qui est sorti en 2009, dans lequel Megan Fox joue une jeune adolescente qui se fait sacrifier par un groupe de rock. Et malheureusement, le sacrifice ne marche pas très bien, et elle revient à la vie sous forme d'une espèce de succube démoniaque qui mange des hommes. Et c'est très marrant. Si vous aimez l'esthétique des années 2000, parce que je sais que pour vous, c'est rétro maintenant, je pense que ça devrait vous plaire. Il y a une super bande-son, il y a des très bonnes tenues, et puis il y a Megan Fox au top de sa forme. Donc forcément, c'est cool à voir, quoi. Et c'est pas trop flippant.
D'où te vient cette passion pour les films d'horreur ?
Je crois que c'est très difficile de savoir pourquoi, parce que j'ai commencé extrêmement tôt. Le premier film d'horreur que j'ai vu, j'avais 3 ans. Donc ne faites pas ça chez vous, c'est une très mauvaise idée. C'était une autre génération. Moi, quand j'étais petite, les parents faisaient la fête et nous laissaient devant la télé parce que comme ça, on les faisait pas chier. Et donc un jour, mon père m'entend rire dans la pièce d'à côté. Il vient voir ce que j'étais en train de regarder. J'étais en train de m'éclater de rire devant un film d'horreur qui s'appelait Le Retour des morts vivants, qui est une comédie, mais pas pour les enfants de 3 ans. Et après ça, il m'a expliqué ce que c'était qu'un film d'horreur et j'ai dit c'est cool, j'en veux toutes les semaines. Et je n'ai plus jamais... Ça m'a plus jamais quitté et j'ai cherché cette sensation partout, dans les films, dans les livres, dans la musique. Après, j'ai découvert Michael Jackson, bon, c'est un autre genre d'horreur, mais à l'époque, c'était surtout de l'horreur fictive parce qu'il faisait des super clips avec des zombies et tout ça. C'était cool avant de savoir la vérité.
Et tu dédies ton livre notamment à ton oncle.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que mon oncle Ahmed fait partie de ces hommes dans ma vie qui m'ont aidé à avoir accès aux films d'horreur beaucoup trop jeune. Et il y a notamment une soirée pendant laquelle on est allé au vidéoclub tous les deux. Il me gardait, donc je dormais chez lui. Et il m'a dit, moi je choisis une cassette et toi t'en choisis une. Donc lui il a choisi un film de Bruce Lee, moi j'ai choisi Chucky 2. J'avais 8 ans. Et on a regardé son film de Kung Fu. Et après il a dit, je suis fatiguée, je vais dormir. Et il est parti, il est allé se coucher. Et je suis restée dans le salon et j'ai regardé Chucky 2 toute seule à 8 ans. Et c'était une très mauvaise idée. Et hélas, mon oncle est décédé depuis. Mais du coup j'ai porté un t-shirt Chucky à son enterrement.
Et pourquoi avoir appelé ton livre Monstrueuse ?
Alors, c'était un choix de la maison d'édition parce que pour elle, c'était ce qui représentait le plus le propos du livre parce que ça parle justement de se sentir monstrueuse et d'aimer le monstrueux. Et donc, il y a une décision toujours un peu marketing quand on choisit le titre d'un livre aussi, il faut quelque chose d'impactant et qui en même temps traduit bien ce qu'il y a dans le livre. Donc, elles m'ont proposé ça et j'ai même pas. Enfin, le titre de travail, parce que souvent pour une œuvre, il y a ce qu'on appelle un titre de travail, donc c'est le titre provisoire qu'on donne à une œuvre en attendant de se décider. Moi, j'avais appelé ça Petit éloge du monstrueux, un peu long. Et donc, monstrueuse, ça marche vachement mieux.
Taous, tu es écrivaine, podcasteuse, active sur Internet. Comment appellerais-tu ton métier ? C'est quoi ton quotidien et tes défis pour ce métier ?
Mon métier, c'est beaucoup de temps passé en jogging devant mon ordinateur, à me promener sur Internet pour chercher de l'inspiration, des informations. Quand je ne suis pas en écriture même d'un bouquin, je passe beaucoup, beaucoup de temps à ce qu'on appelle glander. Et un jour, ma psy m'a dit « Mais non, ce n'est pas glander, en fait. C'est juste qu'on fait des tâches en arrière-plan et qu'il y a des trucs qui ont besoin de mûrir et de mariner avant de pouvoir émerger. » Donc je marine beaucoup, j'adore mariner. Et au bout d'un moment, il y a l'éclat d'inspiration où là, je me dis « Ok, c'est bon, je suis prête à écrire. » Et je passe des semaines et des semaines et des semaines à taper sur mon ordinateur toute la journée. Au bout d'un moment, j'ai envie de le jeter par la fenêtre, mais je finis toujours par réécrire un autre livre, donc c'est que ça doit me plaire. Et donc c'est un métier qui est très privilégié, parce que je suis toute seule chez moi. C'est moi qui fais mes horaires, je décide ce que je veux, ce que je mange, comment je m'habille. Et en même temps, ça nécessite d'avoir une sacrée discipline, parce qu'il n'y a personne derrière moi pour me dire « Eh, il faut le faire maintenant !» Donc il y a beaucoup de temps où je suis ma propre patronne, et je suis obligée de m'engueuler, et ça se passe plutôt bien.
Parlons sérieux. T'es plutôt pizza ou cheeseburger ?
Pizza.
Pizza aux anchois ?
Ouais.
Ouais. Ouais. Ananas ?
Non.
Ok. Et t'es plutôt poupée diabolique ou clowncheur ?
Poupée diabolique. Oh !
Pourquoi ?
Ah, clowncheur. C'est clowncheur parce que dans la nouvelle version de ça, il est interprété par Bill Skarsgård qui pour moi est l'homme le plus beau du monde. Donc,
On n'est pas tous Bill Salkan.
Ouais, je sais, c'est un goût
très
qui s'acquiert.
Très peu de chances que tu tombes sur un clown qui soit incarné par lui.
C'est vrai, mais on peut rêver. Avec l'imagination, tout est possible. Pour le coup, j'ai déjà vu Bill Skarsgård en vrai, donc j'en suis déjà pas loin.
Ok, alors, On va faire un tu préfères.
Ok.
Donc, pour toi, tu préfères vivre la même journée, donc c'est une journée plutôt tranquille, ça peut être un mardi après-midi, pépouze et tout,
okay.
Mais c'est la même journée, il se passera toujours les mêmes choses pour l'éternité.
Okay.
C'est ta nouvelle vie. Mardi, c'est ta seule vie. Ou alors, vivre une seule nuit avec tes pires cauchemars, tes pires peurs.
Oh bah celle-là, direct. Déjà parce que je me sentirais mieux après, et vraiment l'idée de... Rien que les films qui se passent dans des boucles temporelles, je les supporte pas. Les épisodes de séries qui se passent dans des boucles temporelles, pareil, j'ai envie de les skipper, je les supporte pas. Donc oui, non, mais je les affronte tous d'un coup, comme ça après c'est réglé.
Ça se comprend.
Et une dernière question, tu as rencontré pas mal d'ados ces derniers jours. Quel conseil as-tu envie de donner aujourd'hui à l'ado que tu étais ?
Oh là là. Bah, j'ai écrit un recueil, j'ai dirigé un recueil qui s'appelle Lettre à l'ado que j'ai été, dans lequel j'ai écrit une lettre à l'ado que j'étais et avec d'autres personnalités, chacun a écrit une lettre aussi. Je me souviens plus ce que j'ai raconté dedans, à part que je pense qu'il y avait une histoire de confiance en soi. Mais s'il y a un secret que je peux vous livrer, là, maintenant, tout de suite, en exclu, c'est que les adultes ont beaucoup plus peur de vous que l'inverse. Les adultes sont terrorisés par les adolescents, d'accord ? On change de trottoir quand on passe devant un collège ou un lycée. Et c'est « je ne vous mens pas », on en parle entre nous, parce qu'on a peur que vous vous moquiez de notre tenue. Parce que déjà, à cause de vous, on porte plus des slims parce que vous avez dit que c'était pas à la mode et qu'on avait l'air con. Donc l'arrêt au milieu, vous nous avez bouli là-dessus aussi. Donc vraiment, on est terrorisés par les ados. Donc vraiment, ne prenez pas le jugement des adultes de façon trop au sérieux non plus parce qu'on a trop peur de vous. Voilà. Et vraiment, ça fait 3 jours que je suis terrorisée, hein, je vous le dis honnêtement.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci.
Peut-être que l'ado que tu as été écouter du rap. Voilà celui réalisé avec tes mots par l'un des groupes que tu as rencontrés.
On se croise, c'est pas une coïncidence. Discrètement, on reste dans la confidence. Horrifique sont les faits, je suis dans le thème. Extrême sont les news dans le bank. Car c'est tête froide comme en décembre. Poumon rempli de sang, je la frappe d'Hercule, d'Elias entassés comme poupée russe. Mon destin écrit sur papier russe. Thriller et le combat malade sont les soldats.
Lycéenne qui règne en haut de l'échelle sociale. T'es une belle blanche mince qui perd ses pédales. Le visage camouflé comme une braqueuse de banque. Dans le coffre de la voiture, elle a mis tous les plans. Pas un ressenti, pas un brin de méchanceté. Elle a quand même offensé un job rank dans sa bouche. Elle est allée se loger dans sa gorge, étouffant la pauvre adolescente. Surprise, surprise, Lise est morte.
Face à l'inconnu, j'ai un monde dans la rue. Ça va devenir famille après tout en gère. Ce n'est pas possible, tout devient impossible. Jugé culturellement, j'avance lentement. Je cherche une réponse malgré le silence. Mes doux me perturbent, mes pensées se bousculent. Dans la nuit, l'angoisse me suit sans faire de pause.
Yes, I'm getting on my way. When I'm sitting on my face, when I'm breaking on my way every day, when I'm thinking for you, I'm the best. When I'm looking on my ways, I'm flying on my way. When I have to see my teams, I'm the going on the way. I'm swear to God, mama, I have to bless me on my way. When I know everything, I will have to do my way. I'm growing on my way. When I feel hard to see my team, life is not easy. Everything is not easy. Every day you have to walk, my brother. If you don't walk, everything will be hard to do my way.
Je n'ai pas trouvé cette lumière dans l'église, vaporos. Ces obsessions me rendent dans mes rêves, sans cesse. Sous le oxygène pourra me conduire à la rédemption, absolution. Tu es arrivé trop tardivement, lentement. Je présence un incendie orgie. Dans les profondeurs de l'enfer, tu sentiras ma colère obstinée. Maintenant, tu vas subir ma vengeance. Ce n'est que le début, ça commence. Tu n'as pas encore ressenti ce romantisme, mon romantisme.
C'était vraiment horrible, comme Amityville. Personne n'a dormi, dans toute la ville. Des pensées, des fantasmes. Derrière la fenêtre, dans ma tête, y'a des images floues qui veulent pas disparaître.
Quel rap de nos talons grenoblois.
Et maintenant, on a chronique cinéma avec Adriana et Wefitier. Une chronique spéciale palpitante found footage. C'est à toi, Wefitier.
Bonjour. Alors, moi, je vais vous parler du film Projet Blair Witch, qui date de 1999, réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez. Alors, pour le coup, moi, je regarde peu de films d'horreur, mais je vais parler de ce film que j'ai regardé il y a 2 jours. Donc, ce film parle de 3 étudiants de cinéma qui vont dans la forêt de Black Hills, dans le Maryland, pour faire un documentaire sur une légende locale, la sorcière de Blair. Le trio part s'y promener, puis ils se perdent, et perdent en même temps leurs cartes, et tous les soirs, des bruits étranges commencent à sérieusement les inquiéter. Jusqu'au jour où un des personnages disparaît.
Je viens de me réveiller il y a à peine 2 secondes. Il y a des petits tas de pierres devant notre tente.
Je regrette. Je regrette.
Oh merde !
Quoi que je dise maintenant, c'est ma faute. Parce que c'était mon projet.
Alors moi, je n'ai pas aimé ce film, car déjà de une, on ne voit pas la sorcière tout au long du film, on entend juste des bruits. Et c'est un peu joué sur la fonction de psychologie, ce qui n'a pas marché pour moi, car je n'ai pas eu peur. De deux, pas d'attachement au personnage. Heather me gavait, car elle parlait trop, je trouve. De trois, le film était assez lent, car pour 3 cerveaux, il n'y avait pas assez de solutions, donc assez ennuyeux pour le coup. De 4, les images du film pas assez claires, donc donnent pas envie de regarder. Et enfin, le fait qu'il n'y a pas de fin. Donc, ce qui fait une absence de résolution et qui, pour le coup, est assez frustrant pour moi. Donc, pour ce film, j'attribue la note de 1 sur 5. Ce qui fait le 1, c'est qu'il y a une scène que j'ai aimée. C'est quand un bébé bloque la bouche de sa mère qui raconte ce qu'elle sait sur la légende. On a l'impression que la petite comprend. Et enfin, j'aimerais finir cette chronique avec une question. Est-ce que les films d'horreur vieillissent mal ?
Les films, de manière générale, je pense qu'il y a un grand risque pour qu'il y en ait beaucoup qui vieillissent mal. Les films d'horreur, c'est vrai que comme ça joue beaucoup sur des peurs actuelles liées à la société du moment et que ça joue aussi sur la technologie du moment, notamment avec les effets spéciaux, etc. Effectivement, ça vieillit un peu plus vite que le reste du cinéma. Et un film comme Blair Witch, clairement, il fallait que ça s'arrête à une génération. Et la vôtre, c'est normal que ça adhère pas, je comprends complètement. Et je vous en veux pas du tout. Mais voilà. Mais si vous voulez voir La Sorcière, regardez la version de 2016 que moi je déteste, mais qui du coup vous plaira vachement, parce que là on la voit, et on la voit bien, et on la grande, et elle est moche, et elle fait peur. Voilà.
Bah, également, dites-moi si je me trompe, mais... Bon, j'allais dire à votre époque, mais ça fait comme si vous étiez vieille.
Oh, mais vas-y, vas-y. Mais
à votre époque, c'était le commencement d'Internet. Donc, ouais. Retrouver justement au début du film, on voit nous avons retrouvé ces cassettes de 3 adolescents. Il y avait toujours cette confusion entre est-ce que c'est un film ou la réalité.
Exactement.
Alors qu'aujourd'hui, si on cherche. Si on cherche sur Internet, on sait que Projet Blair Witch, c'est un film et ça restera un film.
Et en fait, c'est le premier film qui a fait c'était la première campagne de marketing virale pour un film où vraiment ils ont fait un site avec des avis de recherche. Il y avait des avis de recherche qui étaient placardés dans les villes. Les acteurs ont été obligés de faire semblant d'avoir disparu pendant 1 an pour pouvoir jouer le jeu. Il y avait tout un dossier d'enquête qui allait avec, etc. Donc ils ont tout fait à l'époque pour qu'on se dise... Ça se trouve, c'est vrai. Et comme on n'avait pas les ressources qu'on a aujourd'hui pour vérifier si c'était le cas, il y avait toujours ce doute de hey, « ça se trouve, on est vraiment en train de regarder un snuff movie, finalement. » Donc, pour nous, c'était fou. Mais je comprends que ça ne soit pas pour vous.
Bah justement, parlant de vieux films, j'ai moi aussi un film de found footage à vous présenter. Donc, un film d'horreur qu'on ne présente plus, espagnol, qui s'appelle Rec. Donc, il est co-réalisé par Paco Plaza et Jom Balagueró. Donc il date de 2007, pas si vieux c'est vrai. Donc on suit l'histoire de Angela qui est journaliste et qui interviewe des pompiers en caserne et ces pompiers sont soudainement appelés au secours. Donc Angela les suit et ils rentrent tous dans un immeuble où il y a une vieille dame qui hurle à la mort. Et le reportage part très vite en cauchemar puisqu'ils se retrouvent tous bloqués dans l'immeuble sans pouvoir en ressortir.
Madame, c'est la police.
Restez bien derrière moi, éteignez cette lumière.
Envoyez-nous immédiatement une ambulance. Parfait, ça va aller.
La situation ici devient intolérable, il y a d'ores et déjà deux personnes mortes.
Attention s'il vous plaît, toutes les sorties ont été bloquées.
Donc ce film, moi je l'ai vu à 11 ans, donc j'ai été très traumatisée, c'est vrai, mais je l'ai aussi beaucoup idéalisé. Donc dans mes souvenirs, c'était un film terrifiant. Déjà à l'époque, j'avais aimé les plans de caméra, donc avec la vue infrarouge. Aussi, j'ai aimé que le fait que tout s'escalade très vite. Mmh. J'aime pas les films d'horreur qui prennent du temps à se mettre en place. Là, dans Rec, on sait où on met les pieds, très très rapidement. Par contre, je trouve qu'on l'oublie vite. Parce que je l'ai revu une deuxième fois à mes 16 ans. C'est aussi pour ça que je dis que je l'ai idéalisé, parce qu'au deuxième revisionnage, bon, c'est pas la même chose. Et j'avais pas pris en compte aussi le fait que c'est des hurlements en permanence et que c'est pas un film d'horreur qui utilise les silences comme ambiance horrifique. Et c'est un point qui m'a pas beaucoup plu. Mais concrètement, de quoi parle Rec ? C'est une horreur qui survient en live et sans possibilité de s'en échapper. C'est aussi un huis clos, donc on est coincé avec les personnages jusqu'au bout et on souffre avec eux aussi, bon, sauf si on met pause sur le film. Et il y a aussi une grande influence des jeux vidéo, donc par exemple Resident Evil et Silent Hill. Et c'est pour ça que je mettrai une note de 3,5 sur 5.
Très bien. Pour moi, ça reste un chef-d'œuvre. Toujours.
C'est un film qui fait très peur, effectivement. Selon la perception de chacun, bien évidemment.
Mais attendez, ce n'est pas terminé. Pour continuer dans la thématique found footage, la fiction sonore obsession urbex.
Moi, je pense que c'est une mauvaise idée, cette histoire d'urbex.
T'es vraiment super pessimiste. Bon, bonjour à tous, bienvenue dans Obsession Urbex. Et aujourd'hui, on va visiter un urbex. C'est une grande nouveauté. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas du tout flippant, j'ai fait ça plein de fois.
Tu t'es cassé le pied.
Mais oh, c'est pas si grave. Puis tu vois, on est de retour, ça veut dire que c'est pas très important.
Je peux me faire casser le pied.
Voilà, c'est on survit très bien, bien avec une jambe en moins.
C'est une mauvaise idée.
Merci, Naya.
Mais non, je suis d'accord.
Bon, on y va ?
Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est
vivant.
Si on arrive
dans
cette pièce.
Tu vas voir,
c'est...
Oh, tu te
moques,
j'espère.
Mais non, c'est juste une ancienne salle de concert. C'est pas si pire. Ça va ?
Ça va ? Oui. T'entends les bruits, etc. C'est très flippant, moi j'ai trop peur.
Je pense que c'est une mauvaise idée.
Mais c'est très atypique.
Il n'y a pas tant de bruits bizarres que ça. Oh, oh là là, c'est pas drôle. Bon,
attendez,
on avance là un peu.
Les bruits m'ont fait quand même un peu peur. Hein.
Mais c'est juste Inaya qui
devrait rentrer.
Non, mais c'est juste Inaya qui a nous faire peur, c'est pas très grave.
Et où elle est d'ailleurs, Inaya ?
Je sais pas, elle a dû partir.
Je vous avais dit, elle est pas là, Inaya, il faut qu'on la trouve. Vite.
Elle veut nous jouer un tour pour nous faire peur. On craint rien. Ah, un squelette ! Ah, pardon mes followers, j'ai un petit peu dû vous massacrer les oreilles avec mon cri. Mais vous vous rendez compte, genre un squelette humain quoi, c'est beaucoup trop cool. Mais regardez
ça. C'est trop flippant, y'a rien de drôle, franchement, cet endroit il est horrible.
Mais pas du tout, mais regarde, on a vu un squelette, c'est trop bien.
C'est une mauvaise idée.
Écoute, Raphaël.
Mais non.
Écoute.
Quoi encore ?
Écoute !
Vous entendez ?
C'est quoi ces bruits ?
Mais c'est peut-être Inaya, c'est tout.
Mais qu'est-ce que tu as ?
Inaya ?
Vous étiez où ? Je vous cherchais depuis tout à l'heure.
Mais attends, c'est papa qui joue du piano là ?
Bah non, c'est vous.
Mais
bah,
tu te fous de moi ?
On joue pas du piano là, Inaya.
Mais depuis tout à l'heure, c'est vous qui jouez.
Mais non, c'est toi qui joues.
Les filles, ça commence à devenir super.
Ouais, je veux pas, faut qu'on parte là.
Mais arrêtez. Mais je veux pas, je suis en béquille, je vais pas vous suivre. Les filles, je suis en béquille, attendez. Mais. Les filles ?
Pour se remettre de cette ambiance creepy, on peut accueillir Abdallah et Célia qui nous proposent un jeu sonore.
Bonjour, je m'appelle Abdallah.
Bonjour Abdallah.
Ah, on va faire un blind test sur les films, sur la musique et les sons.
Ok, super.
Donc, on va faire passer un son ou une musique et vous allez devoir deviner.
Ok.
Quand je vous lance le signal. On essaye un peu de faire écouter tout le monde.
D'accord.
Comme ça, si quelqu'un a la réponse.
Donc, je saute pas sur la réponse directe.
Voilà.
D'accord.
On laisse à tout le monde une chance.
Ok.
Voilà. On peut commencer avec le premier extrait. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose ?
C'est pas un jeu vidéo, ça ?
Non. On a essayé de prendre que des films ou des mini-films.
Oui.
Non.
Ah, le public. Ça.
Ça.
Ouais.
Ouais.
Bravo.
Okay. Suite.
Celui-là, un peu plus iconique peut-être. Quelqu'un là dans le public ? Non ? Quelqu'un autour de la table ?
Personne.
Est-ce que vous voulez un indice peut-être ?
Ouais.
Moi je sais.
C'est un... Ok, je laisse un indice si personne là. C'est un film d'horreur qu'on peut catégoriser dans les slashers.
Halloween ?
Non, quelqu'un d'autre ?
Crime ?
Non. Vas-y, t'as où ?
Vendredi 13.
Oui, c'est Jason qui dit cette réplique.
Félicitations.
Voilà. C'est Jason qui appelle sa maman et qui répète l'ordre qu'elle lui a donné.
C'est ça.
De tuer. Voilà.
Suite.
Ok.
Faut deviner.
Ah oui, non.
Ah, c'était un peu compliqué.
Ok. On peut peut-être la faire passer, ouais. Ok. Alors celui-là, il est peut-être un petit peu plus niche. Même peut-être beaucoup plus niche. Donc, le public ? Non, pas du tout. Ça vous dit rien ?
Je suis pas sûre.
Indice ? C'est un clown. Tueur, ah, également.
Terrifier.
Ouais.
Ok, je déteste Terrifier, c'est pour ça que j'avais
C'est un... On peut le catégoriser dans la catégorie un peu grotesque. C'est vraiment beaucoup de sang, beaucoup de violence. Donc,
beaucoup,
du coup,
beaucoup,
c'est...
Beaucoup.
C'est très niche. Vu que c'est une grosse catégorie.
Suite.
Ça arrive.
What's your favorite scary movie?
I don't know.
You have to have a favorite. What comes to mind?
Halloween. You know, the one with the guy in the white mask who walks around and stalks babysitters.
Yeah.
What's
your... C'est scary movie.
Alors non, c'est le piège.
Ça, ça le fait mal, ça.
C'est le piège. Là, on parle de la. Là, t'as mentionné la parodie, pas le vrai film.
Ah ouais.
Le public.
T'en as parlé tout à l'heure, en plus.
Ouais.
Ah.
Ouais. C'est ça.
Mais ce que j'ai.
Non. Alors, on fait pas l'amalgame ici. Il y a Scream et il y a Scary Movie. Ah, en fait, Scary Movie, c'est une parodie de Scream.
Ah ouais.
Exactement.
Scary Movie, pour expliquer vite fait, c'est une série de films qui viennent reprendre des grands films d'horreur. donc Scream, je crois même It, il y en a eu plein. Et donc du coup, qu'ils ont parodié. Donc c'est marrant. Je ne sais pas si ça a bien vieilli, mais dans mes souvenirs, c'était très marrant.
Il y a le dernier qui est sorti il n'y a pas longtemps. Là.
Voilà.
Le 7, pour info.
Suite.
Vous êtes pas bien là, hein ? Ça va pas, hein ? On est tous malaisés, peut-être effrayés. On a envie que ça s'arrête, hein ?
Franchement, t'as ça dans le sang, j'adore.
Alors, ça vient d'où ça ? Non, non. Oui ? Non. Vous voulez le réentendre, peut-être ? Non, personne ? Ok.
Pour moi, le seul qui respire comme ça, c'est Michael Myers.
Oui, c'est ça.
Ok.
C'est Michael Myers, le tueur muet.
Et c'est dans Halloween, l'original ?
Ouais.
Ok.
L'original, c'est quand il est derrière la porte avec Laurie, donc sa sœur. Et que du coup, elle se fait traquer par son frère qui essaie de la tuer. La seule chose qu'elle entend, c'est cette respiration absolument horrible.
Tout à fait.
Okay. Avant de passer le dernier extrait, Abdallah, t'as peut-être une petite question à poser à Taous ?
Suite.
Non. Non, 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 non. Alors.
Erreur.
Non, mais avant ça, est-ce qu'il y a certains films dans la liste donc, qu'on a vu ? Je vais répéter. Donc, It, ça,
ouais.
Vendredi 13, Scream, Terrifier, tu as donné ton avis, ou Halloween. Est-ce qu'il y a des films là-dedans qui ont pu te marquer ?
Scream. Pour moi, je l'ai vu quand j'avais 11 ans. Et donc, c'était pas le premier film que je regardais, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que j'avais commencé depuis un moment déjà. Mais par contre, c'est le premier film qui m'a fait réaliser que le cinéma d'horreur, c'était pas juste une histoire contenue dans un truc que je regardais à l'écran, mais que ça faisait partie d'un tout et d'un univers, et qu'il fallait que j'en regarde plein pour avoir les références, parce que dans Scream, si on n'a pas les références, ça n'a pas la même saveur. Il y a des scènes qui sont absolument iconiques si on a tous les films en tête. Après, si on les a pas, on peut quand même apprécier le film, mais... Il y en a une, pardon, je me permets de placer mon petit croustifac préféré qui vous intéressera peut-être pas du tout, mais tant pis. En gros, il y a une scène dans Scream à la fin, à la soirée, la grosse fête, où il y a un personnage qui est tout seul en train de regarder Halloween à la télé. Ce personnage est incarné par Jamie Kennedy et il regarde l'écran sur lequel il y a Halloween, dans lequel joue Jamie Lee Curtis. Et il dit « Attention, Jamie, derrière toi, Jamie !» Et là, il y a Ghostface, donc le tueur, qui arrive derrière lui, alors que lui-même, l'acteur, s'appelle Jamie. Et voilà, et quand j'ai compris ça, je fais « Oh, incroyable !» Raconté comme ça, forcément, ça fait moins d'effet. Mais quand on a 11 ans et qu'on connecte les trucs pour la première fois et qu'on se dit « Oh là là, cette passion que j'ai, elle va m'emmener loin !» Eh bien, on se retrouve ici aujourd'hui, voilà.
Super. Merci beaucoup pour cette anecdote. Et... Non, mais vraiment, c'est très intéressant. Et au mot du très cher Abdallah...
Suite.
On en parlait tout à l'heure.
C'était le timing comique parfait.
Ouais, c'était quoi ? Ouais.
Sultan.
Thriller de Michael Jackson,
le fameux.
Voilà. El famoso. voilà.
PDF.
voilà. Donc horreur, artiste parfois horrifique et personne horrifiante.
Voilà, exactement.
Bah, merci d'avoir joué à ce petit jeu avec nous.
Bah, merci à vous, c'était trop cool.
C'est la fin.
Merveilleux, vous êtes vraiment fort à ce jeu. Les mots de Taous nous ont vraiment inspirés, notamment ceux de Monstrueuse. On écoute un nouveau rap composé lors d'un d'un atelier avec l'association Expression.
Quand l'âme nous quitte, c'est soit le paradis ou l'enfer. D'un océan de cruauté, je me libère. Pour ne pas souffrir, je vais partir. Dans un univers parallèle, j'aimerais mourir en martyr.
Accro à la ville autour comme une toxico. J'ai vomi, c'est mort comme une gastro.
Perdu dans l'adolescence, les insultes fusent dans tous les sens. Mes cicatrices se multiplient comme le prix de l'essence.
Pas d'empathie, les blessures me font mal. La chute est longue, l'atterrissage sera brutal.
Des mots qui précutent, on peut les féliciter. Passons maintenant aux choses sérieuses. Nous vous présentons un débat sur les lois autour du film d'horreur.
Bonsoir Taous, donc merci de participer à ce débat. Donc autour du film d'horreur que vous avez dit être passionné donc par les films d'horreur et les histoires d'horreur. Et donc on va commencer ce débat donc par une question plutôt technique. Donc pour rappeler à nos chers auditeurs, en France, les films d'horreur donc, sont classés par différentes catégories pour les mineurs, hein, donc interdits au moins de 10 ans, 12 ans, 16 ans, voire 18 ans, pour certains films comme Terrifier, comme on l'a évoqué précédemment. Est-ce que pour vous, dans les salles, on ne parle pas actuellement des films qu'on regarde à la maison, mais plutôt dans la production et la diffusion des films d'horreur envers les mineurs, est-ce que la régulation est correcte pour vous ?
C'est une question très délicate et je suis pas sûre d'être habilitée à pouvoir y répondre. Je suis maman d'un seul enfant et déjà j'essaye de pas trop la rater. Alors la responsabilité de ce genre de truc, je sais pas si je peux la porter sur mes épaules. Par contre, c'est vrai que on a une tendance à vouloir, nous les fans de films d'horreur et les gens qui en font et qui en consomment, on a une tendance à vouloir défendre le cinéma parce que c'est un cinéma qui est un peu bâtard et laissé de côté et c'est le seul genre sur lequel on apporte non seulement un jugement intellectuel, mais aussi un jugement moral. C'est-à-dire que quand on dit aimer les films d'horreur, les gens ne nous jugent pas seulement pour « oh là là, tu regardes des trucs nuls », mais aussi « il y a quelque chose qui ne va pas chez toi ». Donc le fait de mettre certains films en moins de 18, ce qui est quand même extrême comme régulation, ça rajoute un peu d'eau au moulin des gens qui continuent à dire que ça corrompt les esprits et que c'est mauvais pour les jeunes, etc. À côté de ça, je pense que les régulations sont très importantes et que, en tant que personne qui a regardé son premier film d'horreur à l'âge de 3 ans, je confirme que ce n'est pas une bonne idée et que je ne recommanderai pas ça. Voilà, c'est pas ce que je fais avec ma fille et que les restrictions d'âge existent pour une raison et qu'il vaut mieux quand même les respecter. Après, on n'est pas dupes, hein, on sait très bien qu'à l'adolescence, c'est justement la période où on teste ses limites et on se dit « allez, je vais regarder le truc le plus hardcore possible » et après on ne dort pas et on n'a personne à qui en parler et on ne sait pas comment gérer ça et du coup, on met les films d'horreur dans un tiroir et on ne le rouvre plus jamais. Donc je pense que, comme pour tout, il faut s'éduquer à ce qu'on regarde et vérifier avant de le regarder si c'est bien quelque chose qui est fait pour nous, qui est adapté à nos besoins, que ce soit pour des questions d'âge ou d'état psychologique aussi.
Merci. Et donc, vous, Célia, vous en pensez quoi de cette question ?
Je suis plus de d'accord et je viens appuyer sur le fait que, effectivement, on fait de notre mieux pour essayer de respecter ces règles. Mais comme toutes les règles, certains vont les briser. Et donc, du coup, je pense que peu importe les restrictions qu'on met, les jeunes, les très jeunes, auront toujours accès à ce genre de ressources. Et que, en fait, peu importe le nombre de censures, si quelqu'un veut y avoir accès, il y aura accès. Et je pense que dans ce genre de débat, il ne faudrait pas se fermer, comme ça a pu être dit, parce que, justement, les jeunes, après, se renferment sur eux-mêmes et ne veulent pas en parler. Alors que si c'était ouvert, et ben, peut-être qu'ils pourraient en discuter un peu plus. Et le trauma passerait plus.
Je suis totalement d'accord.
Et donc pour vous, parce qu'on va revenir un peu à la source, pourquoi ces films d'horreur sont considérés comme un danger envers les personnes, comme vous qui avez regardé à 3 ans un film d'horreur, pourquoi c'est un danger pour les mineurs, certains films ?
Parce que c'est un cinéma transgressif, c'est-à-dire que c'est un cinéma qui s'intéresse aux tabous d'une société, qui s'intéresse à des sujets qu'on ne peut pas forcément justement aborder autour de la table ou à une heure de grande écoute. Et c'est pour ça aussi que ces films-là sont importants, parce qu'il faut des espaces d'expression pour tous les trucs qu'on a en nous. Donc, c'est-à-dire que même les trucs les plus moches, les plus violents, les plus étranges, les plus perturbants qu'on a en nous, il faut pouvoir en faire quelque chose, il faut pouvoir les voir représentés pour se sentir moins seul et pour pouvoir détricoter certains trucs. Et pour moi, ce n'est pas une thérapie. Hein, la thérapie, c'est super, n'hésitez surtout pas à y aller. C'est un complément de thérapie, mais ça ne peut pas venir tout seul. Voilà, encore une fois, l'encadrement, c'est ce qu'on disait. Je pense qu'effectivement, plus que sur la restriction, il faut travailler sur l'entourage et l'ouverture au dialogue, parce que c'est la même chose avec les jeux vidéo. On n'arrête pas de dire que les jeux vidéo, ça rend violent. On a eu ça aussi avec le rap et le métal. Ah là là, ça nous rend violent, ça nous rend mauvais, etc. En attendant, il y a une grande quantité de personnes qui commettent des crimes violents, qui regardaient les Bisounours quand ils avaient 5 ans et ça allait très bien pour eux. Donc je ne pense pas que ce soit... qu'on soit conditionné à commettre des actes de violence en fonction des œuvres qu'on regarde. Par contre, c'est tout dans l'entourage et dans la façon dont on est accompagné. Et ils le disent très bien dans Scream, les films d'horreur ne créent pas des psychopathes, ils les rendent juste plus créatifs.
Merci. Et vous, autre invité, vous en pensez quoi donc, de cette question envers les films d'horreur et le danger qu'ils peuvent procurer?
Alors, je trouve que ce que. excusez-moi de l'avoir coupé. Je trouve que ce qu'elle a dit est très intéressant. Du fait que l'humain a toujours peur de parler de tabous et quand on en parle, il va vouloir les cacher, alors qu'en parler dans des films ou dans des discussions est très important pour comprendre ces tabous et les guérir.
Et justement, j'aimerais rebondir. Moi, je pense que la nature humaine est faite pour aller vers les choses qui sont interdites. C'est dans notre nature. Si quelque chose va être interdit, par exemple comme un enfant où on place une assiette de bonbons devant lui et on lui dit bah, « n'y touche pas bah, », une fois qu'on aura le dos tourné, il y touchera, évidemment. Là où je veux en venir, c'est que si on interdit quelque chose à quelqu'un, comme a dit Célia tout à l'heure, aujourd'hui on a des médiums qui nous permettent d'aller sur n'importe quelle plateforme, même si au cinéma, par exemple, un film est déconseillé au moins de 12 ans, bon bah je tape le nom du film, streaming, et je le trouve. Mais oui, il faut que ça soit régulé dans le sens où il faut être accompagné, et justement si on empêche des gens de regarder des films d'horreur, et ben l'expression n'est plus là et c'est là où on se renferme.
Ben, je vais faire un peu l'avocat du diable hein, par rapport à vous, amatrice et amateur de films d'horreur. Il faut savoir qu'en 2001, aux États-Unis, un meurtre a eu lieu. Quelqu'un s'est déguisé en Ghostface et s'est procuré une arme pour tuer quelqu'un. En 2006, aux États-Unis, toujours, une personne a tué quelqu'un, a tué un membre de sa famille. En soi-disant repoussant les zestes de Scream, est-ce que ces films d'horreur ont procuré la sensation de surpuissance de la personne ou c'est juste un élément déclencheur parmi les autres ?
Pour moi, c'est vraiment juste, il a mis une skin à son meurtre, quoi. Il s'est dit de toute façon, je vais le commettre. Donc autant que ce soit associé à quelque chose de stylé, mais la violence était déjà là, l'envie était déjà là, et le film d'horreur ne va pas créer cette envie. Et on peut citer à chaque fois un exemple par-ci, par-là, mais par contre, tu comptes le nombre de meurtres tous les jours qui sont pas commis par des gens qui ont des masques de Ghostface, ils n'ont pas besoin de prétexte pour les commettre. Et je pense qu'il y a suffisamment d'études psychologiques qui prouvent qu'au contraire, les films d'horreur ont tendance à développer l'empathie plutôt qu'à créer des troubles mentaux, parce que ça ne crée pas un trouble mental. Une œuvre ne peut pas créer un trouble mental, elle peut appuyer dessus et déclencher certaines choses, mais le trouble est déjà là. Donc quand tu vois qu'au contraire, la communauté des fans d'horreur dont je fais partie, on est vraiment une bande de bisounours où vraiment tu t'ouvres le genou devant moi, je tombe dans les pommes, alors que je peux en regarder 500 en fiction, ça me pose aucun problème. Du coup, je défendrai toujours ce genre pour ça, parce que je sais que c'est erroné statistiquement, en termes de justice, en termes de psychologie, de tout ce que tu veux. Tout peut être démonté pour prouver que non, les films d'horreur ne créent pas de violence.
Je pense que... Après, ça, c'est une opinion très personnelle et donc je vais l'appuyer très fort. C'est un dédouanement du réel problème de dire que c'est les jeux vidéo ou le film le problème. Je vais pas vous mentir, il y a des communautés sur Internet qui sont fans de My Little Pony et ils ont un cas. Ils ont un gros cas. Et il faut se dire que My Little Pony, c'est une série pour petites filles de base, avec des poneys, le pouvoir de l'amitié. Les films d'horreur, ça n'a rien à voir dans cette discussion. Je pense que le véritable problème sous-jacent de toutes ces communautés qui parfois peuvent associer des actes avec des œuvres, c'est qu'ils ont un problème psychologique. C'est qu'ils ne sont pas accompagnés, c'est qu'ils n'ont pas été écoutés ou remarqués quand, en fait, ils étaient en train de montrer des symptômes qui allaient mener à des tragédies, en fait. Moi, je suis animatrice pour enfants. Je sais qu'il y en a qui jouent à GTA à la maison. Je sais que quand ils peuvent, ils font la guerre des pistolets et tout. Mais ça ne fera pas d'eux des futurs psychopathes. En tout cas, je l'espère. Mais de ce que je remarque, ces enfants sont normaux. C'est juste qu'ils reproduisent ce qu'ils voient. Et en grandissant, ils ont la maturité de dire « Ah bah non, bah, je ne vais pas aller tuer quelqu'un. » Et si un jour, on voit qu'il y a des faits alarmants, on vient se poser avec eux et on essaie de les accompagner. Et ça, je pense que c'est vraiment traiter le problème à sa source.
Mmh. En fait, on peut trop se pousser à l'extrême jusqu'à briser nos limites. Et donc, du coup, la sensation d'excitation à faire ce cas peut être réalisée à cause du plaisir à avoir regardé un film d'horreur ou jouer à un jeu vidéo qui est plutôt violent, comme Halo, GTA ou d'autres Call of Duty. Donc ça explique pourquoi il peut y avoir des meurtres ou des cas à cause des personnes qui étaient en lien avec ces fictions-là.
Je pense qu'il y a autant, même certainement moins, de criminels qui n'ont aucun lien avec ces choses-là et qui pourtant ont fait des choses absolument atroces. Il y en a quelques, je vais pas citer de nom parce que j'ai pas envie de leur donner l'heure, mais il y en a quelques-uns, je pense que ouais, ils ont jamais regardé autre chose que touche pas à mon poste, et pourtant ça les a pas empêchés de faire des trucs absolument atroces. Je pense que d'ailleurs touche pas à mon poste est beaucoup plus dangereux pour la société que n'importe quel film d'horreur, mais ça c'est encore un autre débat. Ça existe plus en plus, non? Si, oh, je sais plus. Bon, bref,
ça a été annulé pendant quelques temps.
Ouais, mais il a une autre émission. Pareil, il a changé de skin, mais c'est la même chose. Ça, quoi. Voilà.
Eh ben, merci Taous d'avoir participé à cette émission radio, et merci à tous nos invités. Ainsi que tous nos journalistes d'avoir créé cette émission radio. Et est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin, Taous, envers
les jeunes ? Merci beaucoup. Je suis très honorée d'avoir passé ce moment avec vous. Et je vous remercie pour votre accueil et votre générosité, parce que je sais que ce n'est pas forcément évident de voir quelqu'un de l'extérieur débarquer chez vous. Donc merci pour ça. Et j'espère que vous en garderez un bon souvenir, puisque moi, oui.
Merci.
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 Merci pour vos échanges et explications. Pour finir, on vous emmène dans une fiction sonore, la maison d'horreur d'Amityville.
Il existe une grande maison située dans un village à 60 km de New York sur la côte est américaine qui porte le nom d'Amityville. Si le nom de cette ville vous est familier, c'est parce que l'affaire qui s'est déroulée dans cette maison en 1964 a inspiré un livre et une vingtaine de films d'horreur. Cette maison connaît le goût du sang et le son des cris de terreur. Et son histoire a empêché plusieurs générations de trouver le sommeil.
Automne 74. George et Cathy Lutz sont mariés depuis le mois de juillet. Ils emménagent avec les trois enfants de Cathy. Daniel, 9 ans, Christopher, 7 ans, et Missy, 5 ans. Et leur chien, Harry. Petit à petit, l'ambiance dans la famille Lutz se détériore.
Un soir, alors que George est dans le jardin, il lève les yeux vers la fenêtre de la chambre de Missy. Il aperçoit la silhouette de sa fille. En regardant à nouveau, il prend conscience qu'elle n'est pas seule. George croit halluciner. Il ne veut pas le croire. Il se frotte les yeux. Une telle vision est impossible. C'est celle d'un diabolique cochon aux yeux rouges qui terrifie le père de famille. Pris de panique, finalement certain de ce qu'il vient de voir, il se précipite alors vers la maison pour voler au secours de sa fille. Il enjambe les marches 4 à 4 jusqu'au deuxième étage. Mais lorsqu'il entre en trombe dans la chambre de Missy, il la trouve dans son lit, dormant profondément, seule. Tout est immobile dans la pièce. Tout, sauf le petit fauteuil à bascule devant la fenêtre, qui se balance d'avant en arrière. Après cet épisode, chaque jour semble apporter son lot de mauvaises surprises. Une nuit, dans la chambre parentale, Georges est réveillé par une vision d'horreur absolue. Sa femme, qui dormit paisiblement à ses côtés, est en pleine lévitation. Cauchemar ou rêve éveillé ? Pire, le visage de Cathy se métamorphose. La jeune mère de famille se transforme en abominable personnage dont la peau se flétrit et se délie avant de reprendre soudainement son apparence habituelle.
S'accélère. Éreintée par ces rebondissements constants, la famille, qui ne croyait pas aux histoires de fantômes racontées dans le village, décide de quitter la maison pour s'installer chez les parents de Cathy. Alors qu'ils se mettent en route, une violente tempête s'abat sur Amityville. Les Lutz sont obligés de repousser leur départ et de rebrousser chemin. Tant pis, se dit Georges, ils partiront demain. Aux aguets, il décide de veiller pour protéger sa famille. De quelle menace ? Lui-même ne le sait pas. Ou peut-être ne veut-il pas se l'avouer.
Au beau milieu de la nuit, Cathy se lève soudainement. Ses yeux sont ouverts. Mais Georges voit bien à son attitude qu'elle dort encore. Son corps est raide, ses yeux vides, ses mouvements lourds. Au bout de quelques secondes, elle ferme les yeux et s'effondre, endormie dans les bras de son mari. Georges est terrifié.
Dans un silence de mort, le père de famille tentant de se rendormir, mais au deuxième étage, juste au-dessus de sa tête, des bruits de plus en plus violents et rapides se font bientôt entendre là où se trouve la chambre des garçons. Leur lit semble s'agiter sur le parquet, les faisant trembler. Georges veut sortir du lit pour leur porter secours, mais il ne peut pas. Impossible de bouger, le voilà réveillé, atteint de paralysie. Aucun de ses membres ne lui répond.
Au même moment, Georges entend de nombreuses voix au rez-de-chaussée, comme si un rassemblement bruyant avait lieu dans l'entrée. D'un seul coup, une fanfare démarre dans cette nuit de cauchemar. L'homme entend plusieurs musiciens arpenter le rez-de-chaussée. Pendant ce temps, les lits des garçons s'agitent toujours au-dessus de sa tête. Au vacarme infernal s'ajoute le claquement de toutes les portes de la maison. Sans cesse, elle claque dans un bruit terrible, y compris la porte de sa chambre, qu'il peut voir s'ouvrir et se fermer. Thank you.
Son calvaire est loin d'être terminé. Alors que la tempête fait rage dehors et que la maison semble devenir folle, Georges sent soudain une autre présence que celle de sa femme et de sa fille dans le lit. Comme si quelqu'un était perché sur lui et s'amusait à le piétiner. Puis à lui mettre des coups de pied. Mais ce ne sont pas des pieds. Non, ce sont des sabots. C'est un animal qui semble se déchaîner sur son corps inanimé. Georges perd connaissance. Dans le couloir, Harry semble aboyer après quelqu'un, ou quelque chose. Au prix d'efforts surhumains, George parvient enfin à s'extraire du lit et à se ruer hors de la chambre. En haut de l'escalier, menant au deuxième étage, il aperçoit un visage cadavérique. Hors d'haleine, terrorisé, il fait immédiatement demi-tour, court dans la chambre, attrape Missy, qu'il jette à moitié dans les bras de son frère Dan, et lui ordonne, ainsi qu'à son autre frère Chris, de sortir de la maison. George suit ses enfants et le chien, portant sa femme dans ses bras. Le père de la famille éreintée installe tout le monde dans la camionnette familiale et démarre en trombe.
Nous sommes le 14 janvier 1976. Et les Lutz quittent définitivement leur nouvelle maison, moins d'un mois après leur aménagement. Ils ne remettront plus jamais les pieds à Amityville.
Vous venez d'écouter une adaptation d'un extrait de Feu de camp, écrit par Taous. La lecture et la création musicale ont été réalisées par certains d'entre nous. Taous, on te laisse le mot de la fin. Qu'en penses-tu de ce podcast?
Je suis hyper honoré, je suis flatté. J'aurais jamais cru qu'un coup de projecteur serait mis à ce point-là sur ce que j'ai fait. Donc c'est un bel exercice d'humilité et je suis impressionné par tout ce qui a été fait comme travail, parce que moi, je ne fais pas ce travail-là. Moi, j'écris mon texte, après je le dis dans le micro, et les ingé-sons se débrouillent pour faire l'habillage et le son et tout ça. Ce n'est pas mon problème. Donc, faire tout ça en même temps, je suis impressionné.
Merci pour votre écoute. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à tous nos animateurs et animatrices. Damien, Abdallah, Wefitié, Son Kumba, Adriana, Lina, Célia, merci à Diaby pour la technique et Anis pour la coopération. Bonne écoute sur Radio Campus Grenoble, le 90.8.
Ah, Mickaël, merci
Mickaël. Ah, oui. Et merci à Mickaël.
Merci Mickaël.